Il m'est arrivé parfois, et il m'arrive encore parfois, de me demander comment ce serait si je n'étais pas là. Ou même si j'étais simplement morte. Quand la vie me malmène, quand je ne vois pas d'issue à mes problèmes, quand la douleur émotionnelle est trop forte, je me demande si cette vie en vaut vraiment la peine. Penser à la mort, à sa propre mort, qu'est-ce que cela signifie? Penser à ma mort, c'est pas normal. Suis-je suicidaire?
Alors non, il y a beaucoup de gens dans la population qui ont des idées suicidaires, ça fait partie de la vie normale. Donc ça, il faut rassurer les gens et par rapport à ça.
J'ai beaucoup hésité à poser cette question à Stéphane Saillant. Il est psychiatre, psychothérapeute, chef de département au centre neuchâtelois de psychiatrie et vice-président du groupe roman Prévention Suicide. La mort, elle nous travaille tous, d'une façon ou d'une autre.
Au fond, l'être humain, depuis qu'il existe, il y pense. C'est quelque chose qui est très présent à tous les âges de la vie, qu'on soit des enfants, qu'on soit des adultes ou des personnes âgées. C'est très intimement lié à l'histoire de la naissance et de la vie. Donc la mort fait partie, au fond, de la vie, ça on le sait. L'idée suicidaire fait partie aussi de la vie des gens. On considère que 20% des jeunes, à peu près, ont des idées suicidaires durant leur adolescence ou durant leur vie. Donc ça fait partie, donc c'est normal. Maintenant, c'est vrai que quand on a une idée suicidaire, ça veut dire qu'elle peut évoluer et qu'elle pourrait mener à une crise suicidaire. Mais ça fait partie d'un continuum qui va de l'idée suicidaire brève, qui est rapide, à un geste suicidaire, voire au suicide avéré.
Microsciences, un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme certaines de nos plus graves questions en réponses scientifiques et didactiques. La deuxième question qui m'a longtemps retenue avant de faire cet épisode, c'était l'évocation même du suicide. Je me suis sincèrement demandé si l'on peut parler d'un sujet aussi délicat que le suicide dans un podcast.
Alors c'est une idée reçue très très répandue qui est celle de si on en parle à des gens qui sont suicidaires, on va leur donner envie de le faire. Alors c'est faux, je pense même que ça fait partie des efforts de prévention, finalement, de faire un sujet. Ce qui est important à prendre en considération, c'est la manière dont on le traite, donc avec des informations vérifiées, vérifiables, qu'on ne dise pas n'importe quoi et qu'on donne aussi des informations par rapport à la prévention et des messages d'aide et d'espoir. Donc, en faire un podcast, c'est une très bonne idée.
En moins de 3 minutes, Stéphane Saillant vient de déboulonner 2 de mes idées reçues. Si je pense à ma mort, je ne suis pas forcément suicidaire. Et ce n'est pas tabou d'en parler. Et vous, quelles idées reçues avez-vous sur le suicide? On en a tous, forcément. Moi, j'en ai plein. Et au fond, j'aime bien qu'on les bouscule, mes idées reçues. Et j'en avais une particulièrement coriace sur le suicide. J'ai été vraiment mal à l'aise le 11 janvier 2022 devant le JT de TF1.
Vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Je l'ai perçu de manière très courageuse de la part de Stromae. Ça aide à la déstigmatisation, au fond, de la souffrance dans le domaine de la santé mentale. Et ça montre qu'on peut s'en sortir. Donc, au fond, le fait qu'il puisse le dire à une heure de très grande audience, où il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, ça montre qu'on peut parler de suicide n'importe quand, n'importe où, pas de n'importe quelle manière, parce qu'il le parle de manière extrêmement fine et délicate. Et il parle de son vécu. Donc il transmet une expérience, puisqu'il s'en est sorti, il a pris soin de lui, et qu'il en fait un témoignage. Et ce témoignage-là peut avoir une portée préventive très efficace. Ça, on le sait, avec d'autres expériences et d'autres vécus de stars qui, au fond, disent « Je ne me suis pas senti bien, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai fait une tentative, et j'ai pu être aidé, j'ai rompu le silence, j'ai rompu l'isolement, et du coup, ça va mieux. » Et on sait que ça peut faire augmenter les appels dans les centrales d'appel d'aide, dans les milieux de la prévention. Donc, on est plutôt très content de ce type d'initiative, mais parce qu'elle est faite pas n'importe comment. C'est finalement une force que Stromae a aussi en termes d'artiste, c'est cette finesse-là. En mettant des mots, mais en n'y rajoutant pas des grandes phrases ou autres. Donc il l'a, je pense, très bien fait, et au final, ça peut avoir une portée très efficace sur des jeunes qui se sentent en situation de crise suicidaire et qui se disent « Ah ben, même lui, il a eu une crise suicidaire, donc je peux m'en sortir comme lui s'en est sorti. » Donc c'est vraiment un message d'espoir.
Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité.
Merci à vous pour votre accueil.
Encore une de mes idées reçues qui tombe. Pourtant, cette prestation me gêne. C'est peut-être dans la mise en scène, les lumières, les caméras. Dans la vraie vie, les personnes en proie à des idées suicidaires n'ont pas forcément les mots pour s'exprimer, ni l'audience de TF1 pour les soutenir.
Oui, il y a une mise en scène, mais qui, moi, me dérange pas dans ce contexte-là, puisque c'est un témoignage. Au fond, c'est pas un soignant, c'est pas un professionnel du champ de la santé mentale. Et donc, lui ne fait qu'une seule chose, c'est témoigner de ce qu'il a vécu. Après, une autre chose, c'est que son vécu durant la crise suicidaire n'est pas le même que quand il est sur le plateau et qu'il chante une chanson où il dit qu'il a eu des idées suicidaires. Et quand il se trouvait dans cette crise suicidaire, je pense qu'il s'est trouvé comme n'importe quel individu, dans une souffrance très importante, où il s'est peut-être dit à un moment donné, il n'y a plus que ça. Et par ce cheminement-là, on peut s'identifier à lui, et ça a une portée de prévention assez forte. Alors, je baigne un peu dans le milieu de la prévention du suicide. On a aussi échangé avec des collègues qui sont dans ce domaine-là, et on était tous unanimes sur le fait que ça peut avoir qu'une portée bénéfique, parce qu'on va citer ses propos comme transmettant l'espoir que ça peut aller mieux, même chez quelqu'un qui a tout réussi, au fond. Donc ça a une figure d'exemple assez forte.
Je commence à comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre la crise suicidaire en tant que telle et le témoignage a posteriori. Mais cette crise, à quel moment doit-elle m'inquiéter? C'est normal de penser à sa mort, mais jusqu'à quel point?
Au fond, un suicidaire, il y a un continuum qui va de l'idée suicidaire où on se dit « je ferais mieux de pas être là, je ferais mieux de pouvoir avoir une maladie grave » à « je veux me suicider et je vais me suicider demain ».
Cette solution extrême devient l'unique solution.
Une crise suicidaire prend entre 8 à 10 semaines, 12 semaines, voire, pour que l'évolution de l'idée suicidaire se construise et se cristallise. Alors ça peut être sous forme de flash au début, d'un coup, ou bien ça peut être très envahissant, et ça c'est des patients qu'on rencontre aux urgences psychiatriques, quand ils sont envahis d'idées suicidaires. Là, on a vraiment une grande différence dans le panorama des idées suicidaires. Depuis les idées suicidaires dites sans planification, aux idées suicidaires actives, à des idées suicidaires donc avec planification.
Il faut donc plusieurs semaines. Et moi qui croyais qu'on se suicidait parfois sur un coup de tête, j'avais cette image de la personne ruinée qui se jette d'un pont.
A priori, non. L'orage dans un ciel bleu, les recherches et les études jusqu'à présent nous montrent que c'est pratiquement jamais le cas. C'est-à-dire que la cause du suicide, on ne la connaît pas, elle est jamais univoque, elle est jamais unique, elle est multifactorielle, et on ne se suicide pas parce qu'on est ruiné. On se suicide peut-être parce qu'on est déprimé, parce qu'on est ruiné, peut-être ça fait partie d'une des causes, parce qu'on a des problématiques familiales, parce qu'on a peut-être eu une enfance difficile. Donc c'est un faisceau de facteurs qui vont faire que ça peut aboutir à une crise suicidaire. Donc il n'y a pas une cause unique. Quand on discute avec les gens qui ont fait une tentative de suicide, il n'y a pas un élément. Il y a plusieurs éléments. Il y a peut-être un élément qui a été un facteur de trop, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase était clairement plein de beaucoup de choses et assez complexe.
Cette goutte d'eau est unique pour chacun de nous. Et parfois, le contenu du vase n'est pas évident à identifier. Parmi les idées reçues que je me fais du suicide, j'ai l'impression que le monde est devenu plus dur. Avons-nous toutes et tous de plus en plus de raisons de ne plus avoir envie de vivre? Le nombre de suicides est-il en augmentation?
Alors en Suisse, il diminue très progressivement depuis le milieu des années 80. Alors les raisons et les explications, elles sont difficiles à mettre en avant. Il y a eu des mesures de prévention qui ont été faites, ça a eu un impact. Maintenant, le domaine du suicide nous pousse à être assez humbles puisqu'on ne sait pas exactement ce qui a fait effet, puisqu'il y a une multitude de facteurs à prendre en considération. Ils sont sociétaux, ils sont médicaux, ils sont l'accès aux soins. C'est clair qu'on traite les maladies psychiatriques de manière plus efficace maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. On a des médicaments qui sont aussi plus efficaces. Donc de manière générale, c'est un faisceau d'éléments qui ont fait diminuer le taux de suicide.
Le nombre de suicides en Suisse semble en effet plus bas qu'ailleurs en Europe. Cela dit, ces chiffres sont à prendre avec précaution. La façon même de compter le nombre de suicides avérés diffère d'un pays à l'autre. Difficile de comparer réellement. Ce qui est sûr, c'est que les suicides diminuent majoritairement grâce à des politiques de prévention solides.
On peut dire de manière générale que si on diminue l'accessibilité aux moyens létaux, c'est très efficace en termes de prévention du suicide.
On ne se suicide donc pas plus de nos jours. Pourtant, le suicide garde une dimension contagieuse.
Oui, on peut avoir un effet d'imitation qui se déroule très souvent dans la population adolescente, donc chez les jeunes, qui auront tendance à pouvoir s'identifier avec la personne qui a fait un geste. Et là, c'est vrai que les médias ont une responsabilité et ont un impact. C'est-à-dire que la manière dont on traite un suicide dans la presse, soit d'un jeune ou d'une star, aura un impact en fonction de la manière dont on le traite. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que si on le traite mal en donnant des détails sur la méthode, en faisant du sensationnalisme, du romantisme, ou en donnant une cause très simple et unique par rapport au suicide, on risque d'avoir un effet vertère, c'est-à-dire un effet d'imitation, un risque d'effet de vague de suicide consécutif à un suicide initial.
Les souffrances du jeune Werther, rédigé par Goethe. Après la parution de ce livre en 1774, de jeunes Allemands, déçus eux aussi par leur vie amoureuse, se suicident, de la même manière que Werther. Évidemment, l'effet Werther ne touche pas que les adolescents.
Pour un suicide avéré, donc une personne qui se suicide, il y a 20 personnes qui tentent de le faire. Donc on a un rapport de 1 pour 20, pour toutes les classes d'âge à peu près. Il est beaucoup plus important dans la population adolescente, puisqu'on a un rapport de 1 sur 20 à 50 ou 20 à 60, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de tentatives de suicide que de suicide avéré.
On parle de suicide avéré pour une tentative de suicide dont l'issue est la mort. L'adolescence est donc un âge critique. 50 tentatives de suicide pour un suicide avéré. Mais ce n'est pas le seul âge critique.
Il est beaucoup plus mince dans la population âgée où c'est un suicide avéré pour 4 tentatives. Donc ça voudrait dire que les personnes âgées sont peut-être plus déterminées à un moment donné et ont peut-être des moyens létaux aussi un peu plus violents.
J'avais visiblement aussi des préjugés sur les personnes âgées.
On sait que les enfants moins de 15 ans se suicident moins que l'être humain dans sa globalité. Enfin, c'est important à dire aussi. Plus on prend de l'âge et plus on est quand même à risque de décéder d'un suicide. Et puis on sait que la période entre 40, 50 et 60 ans est aussi une période un peu charnière. On sait aussi que c'est une période d'un âge de la vie où on est un peu à mi-parcours, où il y a des questions existentielles qui peuvent se poser à ce moment-là. Alors c'est un exemple, hein. C'est pas pour autant qu'on va se suicider parce qu'il y a cette raison-là.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pourtant, moi qui ne suis pas dans cet entonnoir d'idées sombres qui se dresse entre mon envie de vivre et moi, cela me paraît très difficile de comprendre comment le fait de mettre fin à ses jours puisse être une option.
Pour les gens qui sont en souffrance et qui veulent en finir, c'est une option et c'est la solution qu'ils ont pu trouver par rapport à leur souffrance intense. Et ça, c'est à prendre en considération, même si en tant que soignant ou en tant que personne qui vient en aide, on a l'impression que c'est pas la bonne option. Et là, on en vient sur le terrain de l'approche et l'évaluation de la personne suicidaire qu'on devrait faire dénué de tout jugement ou de toute valeur morale. Au fond, on a quelqu'un qui est en souffrance, qui exprime une souffrance, et le but, c'est de la rejoindre là où elle se trouve par rapport à la souffrance. Et si c'est dans un projet suicidaire, il faut qu'on puisse en discuter. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller dans son sens, mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on puisse en parler.
Mais ce n'est pas toujours facile d'en parler.
Alors on a peur de l'exprimer parce qu'on a honte. Très souvent, les gens ont honte et ils ne le disent pas. Donc ils s'isolent, ils ne le disent pas à leurs proches, ils ne le disent pas à leurs compagnes, à leurs enfants. Alors, ce qui peut être difficile à entendre, mais ce qui fait qu'ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent le dire. Et très souvent, ce sont des personnes qui peuvent le dire une fois qu'ils sont en face de quelqu'un qui leur dit, qui leur donne le message, vous pouvez en discuter avec moi. Et je ne vais pas vous juger.
Ne pas juger. Faut-il pour autant accepter ce choix déterminé à mettre fin à ses jours ?
On pourrait se dire, c'est mon choix, c'est ma détermination. Et ce que les personnes en souffrance nous disent, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est qu'ils ont eu donc une absence de choix. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés face à une sorte de tunnel où il n'y avait plus que ça qui pouvait soulager ou qui peut soulager leur souffrance importante. L'autre élément de réponse, c'est que quand on parle avec des patients qui ont fait un geste suicidaire, qu'on les accompagne, qu'on essaye de comprendre la crise qu'ils ont subie, quand on traite la dépression qui est très souvent liée quand même, les gens sont très contents d'être en vie. Donc les gens disent « je regrette ce qui s'est passé », alors ça, on ne peut pas revenir en arrière, mais j'ai appris de ce qui s'est passé et maintenant je vais mieux et je vois d'autres possibilités.
Et ce qui semble être l'unique choix laisse place à d'autres solutions et d'autres envies.
Et là on a vraiment plusieurs études scientifiques maintenant qui nous montrent que les gens qui ont traversé une crise suicidaire peuvent aller mieux après. Et c'est pas pour autant qu'ils veulent en finir ad vitam aeternam. Donc c'est un moment difficile, c'est un moment clé, mais si on peut les accompagner, ça peut avoir un effet. Alors c'est clair, c'est pas un absolu. Il y a des décès, on perd des patients qui finissent par se suicider, mais dans la grande majorité des gens qui survivent à une tentative de suicide, il y a un effet très clairement qui est celui de dire « je suis content d'être en vie et je vais mieux ».
Penser à sa mort, ce n'est pas être suicidaire. Il faut souvent plusieurs semaines avant que cette idée ne prenne toute la place dans sa tête. En parler, témoigner, ce n'est pas un tabou. Surtout quand un artiste incroyable comme Stromae utilise sa plume pour nous en parler. Cette chanson me troublait au début de ce podcast. Je ne l'aimais pas vraiment. Elle a pris une autre coloration pour moi lorsque j'ai écouté les paroles. On ne se suicide pas sur un coup de tête. On ne se suicide pas plus aujourd'hui. La crise suicidaire ne touche pas un âge en particulier. Le suicide paraît une option improbable. Pourtant, elle devient l'unique solution pour la personne en détresse. Et ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on fait face à des idées suicidaires, il faut en parler.
Il faut en parler. C'est clair que quand on est très mal et quand il y a des idées suicidaires très importantes ou un geste qui peut se produire, il faut très rapidement se rendre soit aux urgences, soit auprès de son médecin de famille, son pédiatre, ou dans d'autres lieux de soins où on pourra bénéficier d'une aide concrète. Un des messages clés, c'est ne pas rester seul, c'est de ne pas rester isolé, donc avec sa souffrance suicidaire. Alors c'est des fois difficile d'en parler. Donc il faut faire le choix d'en parler à une personne de confiance, mais ça peut être, si on est un jeune, ça peut être un prof, ça peut être son frère, ça peut être sa mère, son père, ça peut être un psychologue. Si on est adulte, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de bureau, mais il ne faut pas rester seul. Le grand risque, c'est vraiment l'isolement par rapport au suicide.
Si je devais recevoir cette confidence de quelqu'un de mon entourage, serais-je à la hauteur ?
Alors, une première étape, c'est de pouvoir entendre et ne pas juger ce que la personne a à dire. Et c'est finalement ça la clé du succès, entre guillemets, c'est vraiment de pouvoir entendre et puis dire à la personne en souffrance, je t'ai entendu, je crois que j'ai compris ce que tu voulais me dire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on puisse ne pas rester seul soi-même par rapport au message qu'on nous a donné et de faire appel à des ressources d'aide. Ça peut être son médecin de famille, ça peut être un prêtre, ça peut être un curé, ça peut être un coach dans le milieu du sport, ça peut être un relais, ce qu'on appelle des sentinelles, des personnes qui pourront donner de l'aide un peu plus loin et surtout de relayer à des professionnels du champ de la santé mentale. Il ne faut surtout pas que ça culpabilise, et c'est pour cette raison très importante qu'il ne faut pas rester seul soi-même quand on nous livre un message du type « je veux me suicider » ou autre.
Il n'y a pas de recette magique, me rappelle Stéphane Saillon. Ce qui est sûr, c'est que la recette comporte plusieurs ingrédients. La prévention, en premier lieu, et l'appel à l'aide. Dans le descriptif de ce podcast, vous retrouverez notamment les liens vers les sites de ciao.ch, de santépsy.ch, ainsi que le lien vers le site de stopsuicide.ch. Pour les professionnels et les sentinelles, le site du groupement roman de la prévention suicide propose des formations. L'évocation du suicide est encore un tabou tenace dans la société. Je ne voulais pas cacher, j'ai hésité à vous parler de ce sujet. Pourtant, le fait de l'avoir évoqué dans ce podcast m'a permis aussi de revoir mes préjugés. Je suis Uma Camis, journaliste scientifique. Et à mes côtés, Grégoire Moll, coproducteur. Jérôme Nussbaum, à l'habillage musical et à la réalisation. Les questions, vous en avez beaucoup, peut-être. Les réponses, nous les cherchons pour vous. Écrivez-nous à microsciences@rts.ch. Partagez ce podcast avec ceux que vous aimez. Sur Spotify, Apple Podcast ou sur Play RTS, retrouvez d'autres épisodes, loin de nos préoccupations du jour. Et prenez soin de vous.